Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Libre Propos, l'émission de Radio Rancière qui vous permet d'écouter la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Cristori, sur des sujets de société, sur des sujets d'église, sur des sujets spirituels aussi. On a besoin de nourriture spirituelle comme ça chaque semaine et même tous les jours, n'est-ce pas Monseigneur?
Bonjour Christophe. Assurément, nos vies ont besoin d'être nourries, notre corps a besoin de bonne nourriture et de sommeil et d'activité, notre intelligence de culture, de sujets qui nous rendent plus capables de comprendre ce monde. Il nous faut aussi nourrir notre vie spirituelle, notre âme, qui est ce principe de vie en nous qui est relié à l'amour de Dieu et de façon à ce que tout notre être soit comme équilibré par une relation à Dieu qui ne veut que notre joie, qui est Dieu est amour, mais qui demande en même temps une conversion à la vérité, au bien et le refus du mal. Et le mal, malheureusement, dans ce monde, quand on regarde le JT, on en voit quand même beaucoup d'expressions et on peut souhaiter ça mieux pour l'humanité qui nous entoure.
Un beau, si j'ose dire, champ de mission pour l'Église, que ce monde finalement qui...
C'est pour ça qu'il y a ces médias, ouais. C'est pour ça que je rends grâce pour Radio Grand Ciel, mais aussi pour beaucoup de médias radiophoniques, télévisuels comme la télévision KTO TV, qui œuvre pour donner une analyse, un regard différent sur les questions du monde, éclairé par la foi, éclairé par la parole de Dieu, par l'appel du Christ, mais qui rejoint bien la vie concrète des gens dans leur métier, dans leur savoir-faire artistique, dans leur activité rurale, agricole, par exemple, ici en Eure-et-Loire. Et il nous faut faire du lien. Le pape insiste beaucoup sur la question des relations dans l'écologie intégrale, relation avec Dieu, bien sûr, mais relation entre nous, avec soi-même et avec la nature, bien tout ça, ça peut contribuer à retrouver du sens à nos vies qui sont souvent comme éphémères, trop rapides, trop agitées, trop immédiates dans la consommation, par exemple, alors qu'il faut prendre son temps. La marche est un bon système pour prendre son temps, d'ailleurs, pour regarder la nature, par exemple.
Quelle belle introduction.
Ah bah oui, c'était pas prévu, on a improvisé un peu, mais ça me vient comme ça, j'ai envie de le dire à ceux qui nous écoutent, et je les remercie pour être fidèles à Radio Grand Ciel.
Nous venons de vivre la Pentecôte, et après la Pentecôte, il y a l'après-Pentecôte, il y a la mission, et est-ce qu'on pourrait parler un peu de cette vie, de cette mission des apôtres au sein de l'Empire romain? C'est là que l'Église a commencé, finalement, juste après ou presque.
C'est ça, elle commence parce que quand Jésus convoque des apôtres au bord du lac, Église, ça veut dire convocation. Donc voilà, ça continue à la croix, parce qu'à la croix, effectivement, le Christ fonde toute l'Église dans son sacrifice, c'est lui qui porte ce sacrifice, qui le subit pour nous sauver. Et ensuite, effectivement, à la Pentecôte, quand les apôtres reçoivent en plénitude l'Esprit Saint pour aller de par le monde. Alors c'est vrai qu'on a lu beaucoup dans le temps pascal, donc le temps entre Pâques et Pentecôte, les textes des Actes des Apôtres, qui racontent des récits incroyables.
Oui, c'est un livre d'aventure.
Hein. Mais complètement. Je pensais, on n'a pas eu, lors des messes, ce chapitre 27 des Actes, où on raconte comment Saint Paul est emmené par des gardes, il doit être jugé à Rome par l'empereur, et là il arrive sur l'île de Malte, mais il y a une tempête énorme, donc ils se fracassent sur les rochers, ils sortent indemnes de ce naufrage, mais vraiment par grâce de Dieu. Et puis là, il y a des gens qui les abritent, en même temps, ils font un feu pour les réchauffer, mais quand Paul prend du bois dans ce tas de bois sec, il y avait une vipère qui mord Paul à la main. Du coup, tout le monde se dit, bah, ça y est, c'est parce que Dieu le punit, il va mourir. En fait, il ne meurt pas du tout. Donc, on crie au miracle, donc les gens se convertissent, etc. Et puis, il est emmené ensuite vers Rome avec ses gardes, mais il pourra pendant 2 ans avoir une sorte de prison relativement ouverte où il peut recevoir quand même des gens. Donc, mais il finira quand même par être décapité. Donc, pour le Christ. Donc, c'est vraiment des aventures étonnantes de ces premiers chrétiens qui avaient beaucoup de foi, un grand désir, en fait, de communiquer le trésor qu'ils avaient reçu de Jésus. Ils n'avaient pas de texte, ils n'avaient pas encore de livre. Ils avaient la mémoire des histoires, la mémoire des témoignages. Au fond, ils témoignaient pour dire au monde ce que Jésus avait fait, d'une part dans sa vie à lui, avant qu'il ne quitte la terre par l'ascension, mais aussi, ils témoignaient de leur propre relation à Jésus. Et c'est ce qui bouleversait les gens. Ils témoignaient des miracles qui s'opéraient et les gens les suivaient.
Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont allés finalement évangéliser des gens qui étaient très éduqués. Je pense aux Grecs notamment. C'était pas les premiers vus. Il y avait des philosophes, des écoles de philosophie. Donc il a fallu être très convaincant. Hein.
L'Empire romain était organisé, structuré. C'est aussi pour ça que le christianisme s'est aussi répandu. Il s'est pas répandu par la force du tout, parce qu'ils étaient, simples, ils étaient pas armés, ils n'allaient pas forcer les gens du tout. Ils allaient avec leur cœur, par ces voies romaines qui traversaient tout l'Empire romain, sur lesquelles on pouvait se déplacer d'un bout à l'autre de la Méditerranée. On circulait au fond plus librement à l'époque qu'aujourd'hui, presque. Il n'y avait pas de visa et de passeport. Sûrement de la police qui surveillait quand même qui circulait, mais ils pouvaient y aller. Ils y vont avec des cœurs larges, et c'est ce qui va peu à peu créer l'Église. Mais ça prendra du temps, plusieurs siècles, tout n'est pas immédiat.
Non. Reprenons notre lecture de la joie de l'amour, c'est ce que vous faites dans votre dernier message fraternel. Vous évoquez le plaidoyer du pape pour une famille élargie au sens où bon, il évoque les familles d'accueil, il évoque le travail des éducateurs, le rôle des catholiques aussi dans l'épanouissement d'enfants qui sont non désirés. Vous parlez de ça aussi, de ces enfants qui, à la naissance, finalement, se retrouvent abandonnés. Ça existe encore de nos jours.
Bah, c'est vrai que la famille n'est jamais idéale. Hein. On peut s'illusionner en pensant que telle famille, c'est joli, un papa, une maman, deux enfants qui sont beaux, un garçon, une fille, c'est un peu la pub ça, hein, mais la famille, elle traverse aussi des épreuves, d'abord la santé par exemple, avec le Covid on l'a vu, des cancers qui touchent parfois des gens jeunes, l'épreuve du travail est pas simple pour beaucoup, les difficultés économiques sont là. Encore, je parle que de chez nous. Il y a des pays où c'est la guerre, ou l'oppression, ou la discrimination grave entre ethnies, par exemple. Donc, on a des familles très. Le pape parle aussi aux familles du monde entier. Hein. Il faut le comprendre quand on lit ces textes, c'est que il a dans sa vue à lui tous les continents du monde, pas seulement la France et l'Europe, quoi. Après, c'est vrai que la famille est invitée à s'élargir toujours plus. Donc, nous, on a peu tendance à cloisonner la famille, mais il y a des pays où, par exemple, les grands-parents sont vraiment dans la maison familiale avec souvent les petits-enfants dont ils s'occuperont. Maintenant, on voit aussi des familles qui sont séparées par le travail, par la migration, donc c'est difficile. Effectivement, vous l'avez dit, il y a aussi des enfants qui sont là et qui ne sont pas toujours les bienvenus, qui sont la conséquence d'une relation peut-être éphémère ou difficile, et l'enfant doit trouver sa place, ce qui est beaucoup plus dur pour lui s'il n'est pas désiré. Alors c'est vrai que l'Église veut lui dire d'abord que Dieu l'aime, et que l'Écriture dit que « avant que tu sois tissé dans le sein maternel, je t'ai connu ». Et ce verbe « connaître », c'est vraiment un mot très fort dans la Bible. Ça veut dire, au fond, « je t'ai connu intimement, je t'ai aimé ». Donc, il y a cette certitude pour nous qui sommes chrétiens de penser que Dieu nous aime dès le sein maternel. D'où l'idée, d'où le fait que nous sommes opposés à l'avortement. Parce que si un être tout petit, mais déjà un être humain, est dans le sein maternel aimé de Dieu, qui a le droit de le tuer ? Personne. C'est arrivé pas trop souvent, et j'ai en même temps une compassion pour les femmes qui ont vécu l'avortement, parce que je sais que beaucoup le partagent, beaucoup nous disent leur souffrance d'avoir fait cet acte-là ou d'avoir dû faire cet acte-là. Maintenant, quand l'enfant est là et que la famille peut découvrir l'amour que cet enfant va susciter, si la famille notamment s'ouvre au Seigneur et que le Seigneur fait découvrir que chacun a une grande valeur, alors cet enfant peut découvrir qu'il a bien sa place. Oui. Et qu'il n'existe pas par hasard, qu'il n'est pas un enfant indésirable, et qu'il peut retrouver du coup une confiance en lui-même. C'est compliqué d'avoir confiance en soi quand on n'est pas aimé. Donc, et l'Église veut accompagner, on va le faire de plus en plus, si on peut le faire en tout cas, avec la pastorale conjugale et familiale, essayer d'accompagner le projet éducatif aussi des enfants, pas seulement pour apprendre à lire, à écrire et des choses intelligentes comme celle-là, mais aussi pour rentrer en relation avec Dieu. Oui. Et pouvoir se confier à lui dans l'espérance.
Alors, il y a des parents qui ont des enfants sans les avoir voulu, et puis il y a des gens qui veulent des enfants qui ne peuvent pas le faire, qui le font grâce à des nouveaux modes de conception, PMA, GPA. C'est incompatible avec notre vision de la famille.
Pour nous, c'est vrai que cette technique semble répondre à la demande d'un enfant pour des couples notamment, mais la loi permettra pour des femmes seules aussi, ou des couples du même sexe, un enfant qu'ils n'ont pas naturellement, aisément, soit parce qu'il y a une difficulté biologique, soit parce qu'ils ne sont pas en couple homme-femme, et du coup, on voudrait leur donner un enfant, entre guillemets, coûte que coûte. La science progresse beaucoup, mais quel progrès cela suscite si l'enfant devient un objet manipulé, préparé, trier, sélectionner, ce qui veut dire aussi éliminer. De quel droit éliminer un être vivant humain, même s'il est tout petit? Grande question. Et ce matin même, j'étais à prier, et m'est venue cette vision folle, mais pardonnez-moi, je vais quand même la dire, parce que ce qui nous paraît aujourd'hui normal aurait paru fou il y a 30 ans ou 40 ans, mais pourquoi pas demain avoir des lieux de commande d'enfants? On nous dira... passez dans ce lieu, on vous prépare un enfant pour dans quelques mois. Vous le voulez comment? Bien, je le veux plutôt grand, plutôt petit. Je voudrais avoir un sexe plutôt masculin ou féminin, mais enfin, il choisira ensuite son genre. Je le veux avec un tel QI, avec telle capacité. Je veux un géniteur qui a montré qu'en sport, il était bon, parce que j'aime le sport et que je veux que mon enfant fasse du sport. Enfin, on pourrait imaginer vraiment des circuits de préparation et de vente, en fait, d'enfants adaptés ou associés, enfin, correspondants au désir un peu personnel, voire égoïste, d'adultes en couple ou pas en couple. Je vous rassure, c'est une vision que j'ai eue.
Oui.
Et j'espère que jamais elle ne se fera, mais quand je vois des films comme Bienvenue à Gattaca... Ah
ben j'allais vous le
oui, bah, par exemple, hein, alors c'est des science-fiction, d'accord, mais ces films posent des questions qui sont vraiment graves, oui, et qui interrogent pour l'avenir.
Un dernier point, vous revenez sur le rôle, un rôle pour chacun dans la famille, le rôle pour le père, le rôle de la mère, et vous parlez aussi du rôle des grands-parents. On oublie aujourd'hui un peu le rôle des grands-parents dans les familles. Ils sont souvent un ciment.
Les grands-parents, souvent, ils ont souvent la charge de leurs petits-enfants, parce qu'à chaque vacances scolaires, on voit des grands-parents, oui, qui accueillent leurs petits-enfants, les parents travaillant. Ils n'ont pas toujours le rôle d'autorité, qui est le rôle, en principe, qui incombe aux parents, au papa, à la maman. Mais ils sont souvent bien là pour s'occuper d'enfants après l'école, pour les faire grandir, les faire travailler parfois, leur classe. Ils sont des éducateurs dans la foi, souvent. C'est eux qui vont prendre du temps pour expliquer la vie de Jésus, pour apprendre des prières aux enfants, pour les emmener à l'église, par exemple. Donc les grands-parents sont vraiment bénis de donner du temps pour leurs petits-enfants. Et je trouve d'ailleurs, et je le vois même dans ma famille, combien ces mêmes petits-enfants devenant grands, quand les grands-parents prennent par compte de l'âge, peut-être 75, 80, 85 ans, combien ces petits-enfants sont reconnaissants envers leurs grands-parents et à leur tour apportent du soutien et de l'aide à leurs grands-parents. Je crois qu'il y a un cercle vertueux dans l'amour, l'amour donné, l'amour partagé. Quand une famille sait... dans la dimension intergénérationnelle, communiquer de l'amour et de l'aide, de l'entraide aussi, de la présence tout à fait sympathique, eh bien, tous en sont au bout du compte bénéficiaires. L'inverse, malheureusement, n'étant pas le bon chemin, mais l'inverse, c'est-à-dire la séparation, le non-service mutuel, fait que les gens finissent seuls et au fond tristes.
Merci beaucoup, Monseigneur. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.radiograndciel.fr. On se retrouve quant à nous, bien évidemment, la semaine prochaine pour un nouveau Libre Propos.